BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer.
Et c'est notre promesse chaque jour à 7h-ci, à 12h-05, on répond à toutes vos questions dans Intégral Placement, vos questions sur votre argent, vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Et pour vous répondre aujourd'hui, Roland Laskin. Roland, vous êtes prêt ?
On y va.
Allez, on mouille le maillot, rédacteur en chef de la lettre des placements, une première question de Philippe. Philippe nous dit, voilà, on connaît très bien l'or, mais que penser des diamants, de l'argent et du bronze ? Est-ce que vous me conseillez, moi, Philippe, d'investir sur les diamants, le bronze, l'argent, plutôt que sur l'or ?
Le problème, c'est qu'avec l'or, on est sur un marché normé, avec des cotations, avec des cours. Même déjà sur les pièces, sur le Napoléon, autour de 280 euros, il y a de grosses différences selon l'état de la pièce et voire sa fabrication. Quand on arrive sur le diamant, là, on ne sait plus où on va. Donc, on a probablement des valeurs théoriques qui sont très très bonnes. C'est un bon placement refuge, c'est un produit rare, donc comme l'or, c'est un placement refuge. Vous achetez du diamant, vous êtes content, vous retournez le vendre, comme par hasard, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne, donc vous avez aucune cotation, aucune sécurité. Donc moi, je conseille pas d'aller sur le diamant, sur l'argent. Bon, l'argent est beaucoup moins cher.
Donc, c'est très volatile, les cours de l'argent.
C'est très volatile, c'est un marché qui est plus petit en échange. Pas en utilisation, mais en échange. Donc c'est autant vraiment rester sur l'or. Si on veut faire de l'argent, il y a des trackers sur l'argent. Il y a un iShares Silver qui est coté aux États-Unis, qui est assez actif. Mais je crois que ce qui est bien avec l'or, c'est qu'on a à peu près, et encore sur les pièces, c'est pas totalement gagné, on a une valeur de référence, une vraie cotation. On sait ce qu'on a en portefeuille, pas à la maison, mais à la banque. Hein, on ne dit jamais assez. Il vaut mieux laisser son or conservé dans des coffres d'une banque ou dans des coffres autres d'une banque, mais en tout cas pas chez soi. Et aller vraiment sur le diamant, on a eu dans les années 80-90, on a eu une explosion des placements en diamant et on avait des courtes super, mais à la revente des écarts considérables. C'est vraiment pas une bonne idée d'aller sur le diamant.
Plus que la matière première, donc c'est la structure de marché dont il
faut. Oui, c'est la structure de marché. En fait, on n'a pas de cours de référence. C'est un petit peu comme si vous aviez une action, votre action Danone, mais on peut vous la racheter un peu selon l'humeur du marché. Voilà. Et donc ça, c'est quand même très très gênant. Si vous transmettez ça à vos enfants, ils vont récupérer des diamants dans un sachet. Et ça, c'est quand même très difficile à revendre. Et encore une fois, on n'a pas de prix de référence.
Voilà donc quelques éléments de réponse hein, sur cette diversification un petit peu hasardeuse. Question de Fatia à Grenoble. Wall Street a fermé pendant 2 jours. Hein, on l'a vu, on l'a vécu sur BFM Business. Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on peut déjà d'ailleurs les calculer sur l'économie américaine et sur les marchés?
Ben, sur l'économie, on en parlait là précédemment avec votre correspondant. On pense que les dégâts seront évalués à 10 ou 20 milliards de dollars.
On est de plus en plus dans la fourchette haute.
Plutôt dans la fourchette haute. D'un point de vue purement boursier, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que on peut vraiment toucher du doigt la faiblesse des marchés européens. La fermeture de Wall Street, ça a correspondu à des transactions extrêmement faible à la Bourse de Paris, moins de 2 milliards, 1 milliard 7, 1 milliard 6.
C'est comme si Paris était l'antenne parisienne de Wall Street, quoi.
Totalement. Donc on sait que Wall Street est vraiment le marché directeur. À Londres, ça a plutôt pas mal marché, et à la Bourse de Paris, on avait vraiment des transactions dignes d'un mois d'août, et ça, c'est quand même un petit peu préoccupant. Ça veut dire qu'on est totalement dépendant du
marché. Une place périphérique.
Totalement. Quoi. On est une place périphérique et puis on va, si vous voulez me brancher là-dessus, on est en train de décourager les actionnaires individuels et c'est pas en train de s'arranger.
Voilà. On est une place périphérique, malheureusement pas émergente. Une autre question tient de Philippe. Après avoir baissé de 68%, que peut-on envisager pour l'action Bouygues? Il aimerait en acheter, il vous demande s'il faut le faire.
Alors l'action Bouygues, nous on doit reconnaître qu'on n'a pas, c'est un de nos mauvais conseils, on ne pensait vraiment pas que l'action Bouygues allait descendre à moins de 19 euros. tous les clignotants, tous les indicateurs d'activité sont assez négatifs. Hein, sur les télécoms, c'est vraiment très difficile. On a eu l'arrivée de Free, qui c'est plutôt bon pour les consommateurs, mais pas du tout pour Bouygues Télécom, qui est en train de casser les prix. On parle éventuellement d'un mariage aujourd'hui entre Free et SFR. On aurait deux gros mastodontes, d'un côté France Télécom, de l'autre Free SFR. Bouygues au milieu, c'est pas très très bon. TF1, la publicité, c'est une des valeurs franco-françaises, franco-européennes dont on parlait, qui souffre d'un net ralentissement sur l'activité économique en France. On a sur l'immobilier Bouygues qui souffre également, et on a Colas qui finalement n'a pas enregistré de très très bons résultats. Ils ont été en perte de mémoire sur la dernière publication. Ceci dit, on a un bon carnet de commandes sur Colas. Et Colas paraît très sous-valorisé. Pour revenir à Bouygues, à 19 euros, on a quand même des actifs qui sont là. Il n'y a peut-être pas d'opérations spéculatives, on ne va pas se jeter dessus. Mais un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Air France, quand on connaît des baisses aussi fortes, on est pratiquement sur 68-70% de baisses en quelques mois sur Bouygues. Il vaut mieux conserver la valeur. On peut penser qu'on va retrouver des marges de manœuvre sur un des actifs ou une cession, et là ça pourra redonner un petit peu d'air, mais on aura vraiment du mal à retrouver les ne serait-ce que les 27 euros de mémoire qui était la dernière opération qui avait été faite par la société de rachat d'actions auprès des actionnaires.
Et on aura du mal à retrouver les marges d'antan chez Bouygues, les marges de Bouygues Télécom par exemple.
C'est vrai que c'est une valeur qui est vraiment attaquée sur toutes ses spécialités. Ceci dit, 19 euros c'est un peu sévère, on peut espérer un rebond peut-être autour de 23-24 euros.
Bon, donc on attend sur Bouygues pour espérer limiter sa perte, ou on prend sa paume et on pense à autre chose?
Moi, je pense qu'il vaut mieux, garder. Il n'y a pas péri dans la demeure. Hein. Il y a, on est simplement sur des secteurs qui sont un petit peu attaqués aujourd'hui. Encore une fois, Bouygues, c'est une valeur qui se révèle être totalement franco. Européano-européenne, et ça, c'est quand même pas le bon endroit où il faut être.
Voilà. Sur le cas de Bouygues, en tout cas, on reprend un petit peu de chemin ce matin, plus 0,88, 18, 92. On marque une petite pause, Roland. Et on reprend le fil de nos réponses à vos questions avec Roland Laskin, toujours avec nous, de la lettre des placements. Et les banques qui sont à l'honneur de quelques questions, notamment Santander, première banque européenne. Que faut-il en penser? Cet auditeur nous dit que sa situation financière s'améliore. Est-ce qu'on peut partager cet avis-là ou pas ?
C'est vrai que les banques espagnoles ont pas mal remonté ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on n'a quand même pas beaucoup de visibilité. Je crois que ce matin, BBVA a publié ses résultats. Je crois que c'est une chute pratiquement de 50% des résultats sur les 9 premiers mois de l'année. C'est quand même très spéculatif. On parlait de valeurs faiblement valorisées. Si on s'intéresse aux banques, peut-être à ce moment-là, rester sur des banques françaises qui, elles, a priori, ont vont moins souffrir des opérations de sauvetage et de recapitalisation qui vont être mises en place sur l'Espagne. Moi, je conseillerais plutôt de rester, ou de ceux qui n'en ont pas, de revenir sur des valeurs comme BNP, Société Générale. Santander, c'était vraiment une banque qui avait 90 millions de clients dans le monde, très présente notamment en Amérique du Sud, mais on a vraiment très très peu de visibilité là-dessus. On regardera le dossier, mais a priori, ça me paraît un peu spéculatif.
Même si les banques espagnoles progressent en bourse, on le répète, et c'est le cas encore aujourd'hui. Santander gagne 1,4%, BBVA, dont vous décriviez les résultats, progresse aussi, plus 1,2%.
Elles ont effectivement pas trop baissé depuis le début de l'année. La remontée s'est faite assez graduellement depuis l'été. On a quand même des portefeuilles qui ont beaucoup souffert. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire sur nos financières françaises qui sont vraiment très attaquées. Quand on voit que Crédit Agricole est autour de 6 euros, il y a vraiment du chemin à faire. On a une valeur d'actif qui est quand même plus proche de 18. Donc, plutôt rester sur ces valeurs.
Allez, une autre question tout de suite, question de Marc qui nous écrit depuis tôt. Il vous demande si c'est la fin des valeurs automobiles européennes. Ah,
C'est bizarre comme question. À mon avis, quand il parle de faim, il parle peut-être de la France et pas de l'Europe, parce que je pense qu'il pense à Peugeot. Enfin, c'est vrai que sur la voiture française, c'est difficile. On en a parlé. Ce sera très difficile pour les actionnaires de Peugeot. S'il y a un sauvetage, il se fera probablement pour la marque, pour une partie des salariés, mais les actionnaires ont peu de chances de s'en sortir la tête haute. En revanche, l'automobile européenne, ça va très bien pour les Allemands, merci. Volkswagen est au plus haut. Audi, la filiale haut de gamme de Volkswagen, gagne des parts de marché en Europe. En Europe et continue de progresser en Europe. Donc en fait, on a vraiment un problème sur Peugeot. On a Fiat qui a publié ses résultats, belle valeur européenne, qui va très mal en Europe, mais qui a eu la bonne idée de venir au secours de Chrysler. Et là aujourd'hui, eh bien, c'est ce sauvetage qui sauve la.
C'est un drôle d'équipage même.
C'est un drôle d'équipage, mais bon, ils ont une bonne initiative. Alors qu'on a eu l'impression que Peugeot est peut-être resté un petit peu trop fermé sur, sur son marché, peut-être sur des aides qui ont été proposées par les différents gouvernements successifs.
Vous n'avez pas envie de racheter à 4,92€, c'est quand même très bas.
C'est bas, mais que va devenir la marque ?
En début de semaine, on a un analyste qui nous a dit Peugeot, ça pourrait être Alstom. Ça pourrait, lui il y croit, dur comme fer. Ça pourrait être une recovery. Enfin, il voyait beaucoup de similitudes. Vous ne pensez pas que l'État peut avoir une vista comme il l'a eu sur Alstom et...
Non, mais il y aura sûrement une opération de l'État. Est-ce que aux États-Unis, le sauvetage de General Motors s'est fait, les actionnaires ont été totalement laminés et on a fait le travail qu'il faut. Et là, on voit le titre qui repart. En Europe, je pense qu'on va laminer les actionnaires et le travail de restructuration ne sera pas fait.
Ouais, donc,
nous, on parle de mauvais conseils. Peugeot n'a pas été un bon conseil. On a fait vendre la mort dans l'âme il y a deux mois maintenant autour de 7 euros, 7,5 euros. C'était une énorme déception. On a préféré couper la position.
Et sur ce secteur automobile, vous pouvez malgré tout nous conseiller une valeur plus que d'autres ?
Bon, on a beaucoup parlé récemment de Volkswagen, qui est peut-être un petit peu élevé, mais on peut trouver de bonnes opportunités, notamment du côté de BMW.
Oui.
Et peut-être Renault se replie, qui là, Renault s'est nettement redressé ces jours-ci, mais on pourra peut-être revenir sur Renault en cas de repli du titre.
Voilà donc pour le dossier Peugeot auquel visiblement, Roland, vous ne croyez pas. On a une question de Marie-Alix qui nous écrit de la Trinité. Elle s'intéresse aux pharmaceutiques et entre les génériques et les brevets, elle voudrait savoir s'il faut plutôt craindre ou espérer pour ce secteur de la pharmacie.
Alors, je crois que pour la pharmacie, le boulet est passé, le gros danger des génériques est passé. Quand on voit une valeur comme Sanofi, par exemple, on se rend compte
que...
Ça a duré pendant 10 ans, pendant plus de 10 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont accusé le coup. Ils se sont mis d'abord sur les génériques. Ils ont acheté une société en Tchéquie, je crois, qui marche très très bien et qui arrose totalement tous les pays de l'Est sur les génériques et qui, bien évidemment, exporte en Europe. Et ils ont acheté dans les biotech Genzyme. Donc, en fait, je crois que cette question, elle est peut-être un petit peu en retard maintenant. Sur la plupart des grands laboratoires pharmaceutiques, et c'est le cas de cette superbe valeur qu'on a en France, ont largement réagi à la fois sur les génériques et sur la recherche en se mettant sur les biotech. Et à propos de biotech, je vous rappelle qu'on a à Paris un secteur des biotechnologies qui est extrêmement actif. On a AB Science là, qui s'envole. Là, il faudrait être un petit peu se calmer sur la valeur. Mais on a regardé récemment une société comme Sartorius Tedim qui paraît vraiment très faiblement valorisé.
Voilà.
Et ben voilà, pourquoi pas regarder effectivement quelques petites pépites pour bénéficier d'un engouement sur les pharma. Merci beaucoup Roland Laskin donc pour cette réponse à Marie-Alix qui nous écrivait de la Trinité.
Et merci pour tout finalement puisque voilà, on a plus assez de temps malheureusement Roland pour continuer de répondre aux nombreuses questions sur notre site bfmbusiness.com mais vous reviendrez mercredi prochain. Allez, c'est promis. Mercredi prochain, Roland Laskin, rédacteur en chef de la lettre Déplacement. Bon retour, Roland.
BFM Business, numéro 1 sur l'économie.
Et on termine avec le retour de Marc Giraud en plateau, qui revient nous voir après nous avoir recommandé la truffe. Pour quelques pépites que l'on découvrira cette fois-ci sur la côte parisienne. Votre choix ce matin, c'est Maroc Télécom. Alors, on évoquait le cas de Bouygues, enfin de Free, etc., et des CFR. Là, on reste dans la galaxie. Vivendi, pourquoi avoir choisi ce matin d'évoquer Maroc Télécom ?
Maroc Télécom, c'est une vraie truffe, en fait. Maroc Télécom, c'est un titre qui est coté en France et qui est assez actif en France et qui permet d'investir dans des pays où c'est très difficile d'investir directement pour un investisseur privé particulier. Maroc Télécom, c'est 80% de son chiffre d'affaires au Maroc, mais c'est 20% à l'international. Et l'international, ce sont des pays intéressants, en pleine croissance. C'est le Gabon, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso. Donc, c'est une valeur pays émergent coté en France. Deuxième avantage, et là, moi je ne comprends plus rien à la bourse, je dois dire, quand je vois ça, c'est que Vivendi annonce plus ou moins qu'ils ont l'intention de vendre leur participation de 51% de Maroc Télécom, et qu'est-ce que fait le titre ? Il baisse. Là, c'est contraire à toutes les habitudes de la bourse.
C'est-à-dire que chez Vivendi, tout est à vendre.
Oui, c'est vrai. Et puis, ça montre aussi peut-être que les investisseurs n'ont pas tellement confiance dans la capacité des dirigeants de Vivendi à optimiser la valeur de Maroc Télécom. Mais quand on regarde un peu dans les comptes de Vivendi, Maroc Télécom, c'est leur prix d'achat. Si on ne tient pas compte des dividendes qu'ils ont touchés depuis plusieurs années, c'est à peu près 8 euros par action. On vient quand même, le cours de Maroc Télécom, on était à 13 euros fin 2008, début 2009. On a perdu 30% de sa valeur alors que les marchés émergents ont monté assez fortement pendant cette période. Ça a bougé en sens inverse des marchés émergents alors que c'est une valeur pays émergent. Ça me semble assez anormal. Et même si, en termes de PER, Maroc Télécom est pas donné, hein, puisque on doit être à 12, 13 fois les résultats de 2012. Alors que la moyenne du secteur en Europe est plutôt à 11, 11,5, c'est quand même une valeur assez unique, présente sur des marchés qu'il est très difficile d'approcher directement pour un opérateur international. Et pour moi, Maroc Télécom devrait pouvoir susciter la convoitise de beaucoup d'opérateurs, notamment les gens du Golfe Persique,
ouais,
qui
en
ont énormément
d'ailleurs.
D'argent. On a parlé de sociétés du Qatar, de sociétés du Golfe Persique en général, même France Télécom a manifesté son intérêt. Je pense que ce ne sont pas les concurrents qui manquent et que ça peut faire monter les enchères.
On vous sent très 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 optimiste là-dessus, mais il n'y a pas de point négatif, il n'y a que du plus.
Il y a toujours des points négatifs quand on regarde une société. Ensuite, ça dépend la balance, enfin le poids que l'on donne à tous les arguments.
Justement, quelques contre-arguments pour expliquer
quelques
peut-être.
Quelques contre-arguments. Au Maroc, il y a quand même deux concurrents très agressifs. Ouais. On a eu une déréglementation du marché marocain, une politique délibérée du royaume chérifien pour faciliter l'installation de nouveaux opérateurs. Donc les marges au Maroc sont en diminution. Ils perdent quelque part de marché. Même si le Maroc présente une caractéristique intéressante, c'est qu'il y a une très forte sensibilité du volume de consommation au prix, et que la baisse des prix provoque une très forte hausse de la consommation. Donc s'ils perdent d'un côté en prix, ils le regagnent en partie en volume. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de la valorisation qui est relativement généreuse suivant nos critères européens. On est à, pour simplifier, disons 13 fois les résultats 2012. Les gens trouvent que pour une valeur télécom, c'est pas spécialement bon marché.
Bon, alors grosso modo, ce matin, on est sur les 9,80, quelque chose comme
on
ça.
On est 9,80. On va pas payer plus de 10 euros. Il faut être prudent, il faut être raisonnable. En plus, il y a un arbitrage qui se fait avec la bourse de Casablanca qui est assez efficace, mais qui n'est pas instantané. Donc, on se place à l'achat en dessous des euros. On attend que les titres viennent. Et puis, moi, je parie sur un cours de 12 euros, peut-être un petit peu plus, lorsque Vivendi cédera sa participation, sachant que le Maroc a une réglementation qui oblige un acquéreur, lors d'une négociation de bloc de contrôle, pour autant que j'ai pu vérifier, à faire une offre minoritaire. Donc on ne va pas se retrouver, si vous voulez, avec...
On ne va pas se retrouver bloqué à Paris avec des titres...
Avec des titres à faible liquidité, Vivendi ayant vendu très cher et le cours rebaissant en bourse. Enfin, je ne vois pas ce scénario, en tout cas.
Eh bien voilà, l'idée de Marc Giraud, mettre un ticket sur Maroc Télécom à moins de 10 euros, en espérant une douzaine lorsque l'affaire se décantera. Merci beaucoup. Marc Giraud. Giraud, gérant chez HMG Finance.
Et à bientôt, le CAC 40, messieurs, progresse toujours. On gagne 0,4% à la Bourse de Paris, 3473 points. La plus forte hausse en Europe, ça reste Athènes, plus 1,9%. Et puis un mot de Wall Street, hein. Wall Street va rouvrir cet après-midi, enfin, après être resté fermé pendant deux jours. Les futurs américains sont en hausse, alors ça peut encore varier. On est à 2h de l'ouverture de Wall Street, mais pour l'instant c'est en hausse. Le S&P 500 futur gagne un petit peu plus de 0,6%. Dans un instant, vous retrouverez bien sûr votre JT de l'écho, le 12-30 de Delphine Liu. A tout de suite.